Bonsoir.
Bonsoir.
Qu'est-ce que je vous sers ?
Je sais pas, qu'est-ce que vous pourriez me conseiller ?
Vous reprendrez bien un peu de SF ?
Ouais, oui, tiens. Vous reprendrez bien un peu de science-fiction. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un réalisateur qui n'a pas fait que de la science-fiction, mais qui en fera de la très bonne. Aujourd'hui, je vais vous parler de Paul Verhoeven. Monsieur Verhoeven est né à Amsterdam, aux Pays-Bas, le 18 juillet 1938. Il sera donc logiquement confronté dans sa prime jeunesse aux horreurs de la guerre et de l'occupation. Lorsqu'on vit cet état de guerre jusqu'à ses 7 ans, la paix qui arrive vous paraît totalement anormale. Son quotidien jusque-là, c'était la présence des soldats allemands, les bombardements. Certes, pas joyeux, mais si l'on a vécu que ça, la paix vous paraît étrange. Cette atmosphère va donc logiquement influencer son œuvre cinématographique. Sa passion pour le cinéma se déclare très tôt. Son père l'amène régulièrement au cinéma où il découvre les films américains venus avec les libérateurs d'outre-Atlantique. Mais c'est surtout lors de son séjour en France en 1955 que le déclic survient. Son père, francophile, l'envoie à Saint-Quentin dans l'Aisne où un prof de français lui fera découvrir les grands classiques. De retour aux Pays-Bas, il continue ses études pour obtenir un doctorat en mathématiques et en physique. Paradoxalement, c'est l'armée qui lui permettra de faire ses premières armes, jeu de mots, dans le domaine du cinéma. En 1964, au cours de son service militaire, il réussit à intégrer le département audiovisuel de la marine néerlandaise. Il a l'occasion de réaliser un film de propagande pour les 300 ans de la marine royale. Il le fera sous la forme d'un petit film d'action. Film qui sera primé au Festival international du film militaire. Si, si, ça a existé. C'est cette expérience qui scellera son destin. Il ne sera jamais un scientifique. Avant son service militaire, il a réalisé quelques courts-métrages. Mais c'est vraiment à partir de 1967 que sa carrière professionnelle débute. Il se fait réellement connaître avec la série Floris, pendant laquelle il rencontrera un autre grand nom du cinéma batave, Rutger Hauer. Batave, ça veut dire néerlandais. Vous pourrez leur sortir pour briller en société. S'ensuit une décennie au cours de laquelle il enchaîne les succès et les records d'entrée en salle. C'est surtout à partir de 1975 que sa réputation dépasse les frontières et qu'il commence à intéresser les Américains. Au début des années 80, le vent tourne pour Paul. Son style cru et très explicite commence à déranger, même aux Pays-Bas, pays réputé pour sa tolérance. Il va donc se tourner vers les États-Unis qui lui font les yeux doux depuis un moment. Avec pour parrain Steven Spielberg, les auspices sont bons pour y commencer une nouvelle carrière. Son premier film américain aura l'effet d'un coup de tonnerre. En 1987 sort Robocop. Pour la petite histoire, il a failli refuser de tourner ce film. C'est son épouse qui, après avoir lu le script, a mis en évidence la double lecture qu'on peut y percevoir. Dans l'esprit de Paul, son Robocop sera un poil christique. Car le héros aura droit à sa crucifixion et à sa résurrection. L'histoire, nous sommes à Détroit en 2043. La ville est rongée par la violence. La police, qui est privatisée, ben voyons, a le plus grand mal à faire régner la loi, faute au manque de moyens et à une gestion calamiteuse des ressources humaines. Mais si justement ce n'était pas fait exprès, car l'OCP qui gère la police a un nouveau produit à vendre, le D-209. Le D-209, champion de la sécurité publique, comme il est présenté, est un robot bipède, massif, environ 2 mètres de haut, et disposant d'une puissance de feu pas forcément en adéquation avec le maintien de l'ordre. Mais bon, on est aux États-Unis. Sauf que... Lors d'une démonstration, le D-209 tue un employé de l'OCP. Oups. C'est donc un projet concurrent qui est choisi, le programme Robocop. À la différence de l'ED-209, Robocop est un cyborg, c'est-à-dire un humain amélioré par des dispositifs mécaniques et électroniques. Il faut donc trouver un volontaire qui accepterait de se faire charcuter pour devenir un hybride mi-homme, mi-machine. Bien évidemment, ça va pas être facile à trouver. C'est donc le plus calmement du monde que l'OCP va transférer les policiers les plus « prometteurs » entre guillemets dans les zones les plus risquées et attendre. Oh, pas longtemps. L'officier Alex Murphy, le premier jour de son affectation dans le quartier sud, va être exécuté par la bande de Clarence Bodycare lors d'une scène pour le moins explicite. Je vous épargnerai les détails, mais cette scène a marqué de nombreux spectateurs par sa brutalité et son souci du détail. Approche crue et réaliste qui sera une des particularités du réalisateur. Toujours est-il que Murphy n'est pas mort, pour le moment. Son décès sera déclaré seulement quelques heures plus tard. Voilà notre héros crucifié, place maintenant à la résurrection. Il ressuscitera sous la forme d'un cyborg, Robocop.
Nous avons le meilleur de l'homme et de la machine, les réflexes les plus rapides produits par les technologies modernes. Un ordinateur incorporé, programmé à vie avec les données du maintien de l'ordre en milieu urbain. J'ai la joie immense de vous présenter Robocop.
Mais alors, pourquoi un cyborg et pas simplement un robot doté d'une intelligence artificielle? On entend souvent parler d'IA et commence à même à proliférer autour de nous sans que l'on s'en rende compte. Mais elles servent à des tâches simples. Apprendre à une IA le métier de policier, ce n'est pas la même affaire que de comparer des algorithmes. Le métier de policier exige de la nuance, de l'instinct même. Et ça, c'est pas une chose qui s'apprend. C'est quelque chose que l'on développe au fil du temps, c'est subtil. Et ça, on ne sait pas encore le faire avec une IA. Surtout dans un domaine où l'usage de la force est fréquent, et même de la force létale. Donc, améliorer un policier déjà expérimenté peut paraître une bonne idée. Mais la façon dont c'est fait dans ce film n'est pas la bonne façon. Les créateurs de Robocop ont effacé une partie de sa mémoire pour qu'il n'ait pas conscience de ce qui lui arrive. Le choc au réveil risquant d'être particulièrement brutal.
Tranché.
Que se passe-t-il?
Nous avons pu sauver le bras gauche.
Pardon? On était d'accord pour une prothèse organique totale, alors coupez le bras gauche.
Mais enfin, Morton.
Est-ce qu'il peut comprendre ce que
j'ai dit? Aucune importance, on va lui effacer la mémoire.
Je crois qu'il faut lui amputer le bras. Qu'en dis-tu, Johnson?
Il a signé une décharge pour léguer son corps à la science. Légalement, il est mort.
On est libre de faire ce qu'on veut.
Amputez-le.
Sauf que la mémoire lui revient. Et c'est à partir de là que tout va partir en vrille. Il va chercher... et retrouver ceux qui l'ont tué. Et cette quête ne va pas plaire à tout le monde. Ce film, au-delà d'un choc visuel qu'il a provoqué, est surtout une satire contre l'Amérique reaganienne. Paul, qui est arrivé aux États-Unis quelques années seulement avant qu'il ne réalise ce film, n'est pas un farouche opposant à la société américaine des années 80. Il serait bien idiot de mordre la main qu'il nourrit. Il met surtout le doigt là où ça fait mal. Il y a déjà la violence, celle des rues, des gangs, mais aussi celle en col blanc, comme on dit. Le portrait des businessmen qui est dressé dans ce film n'est pas leur avantage. Ils sont cupides, forcément, égoïstes, cyniques. La vie humaine n'a que peu de valeur, mise à part la leur, évidemment. Ils sont des caricatures, ils correspondent à l'image que le public s'en fait et que l'on aime détester. On perçoit que les décisions uniquement tournées vers la recherche du plus grand profit prise dans les sphères de pouvoir économique, influence en mal, on va pas se mentir, la vraie vie des ouvriers et autres employés. Les médias, eux aussi, ont droit à leur petite pique. Les présentateurs des journaux télévisés, de véritables Barbie et Ken, énoncent les infos avec toujours le même ton, limite rieur, voire narquois, et subtilement orienté. Cette première réalisation dans le domaine de la science-fiction va marquer les esprits tant par sa violence très démonstrative que par la mise en lumière de certains défauts de la société américaine. Mais ne vous y trompez pas, ça devient un peu la norme dans tout l'Occident. Ce film parle du transhumanisme avant que le concept ne devienne à la mode. Murphy est amputé de nombreuses parties de son corps. Mais jusqu'à quel point peut-il encore être considéré comme un être humain? Quel élément de son corps recueille son humanité? Son cerveau? Mais le cerveau ne peut pas vivre par lui-même. Il a besoin d'une grande partie du reste du corps pour fonctionner. À quelle portion congrue du corps humain on peut déterminer le minimum d'humanité? Celle en dessous de laquelle on n'a plus affaire à un humain. À vous de vous faire votre propre idée. Robocop aura aussi impressionné un acteur, Arnold Schwarzenegger, qui, ayant acquis les droits d'une nouvelle de Philip K. Dick, souvenir à vendre, veut que Verhoeven réalise son adaptation au cinéma. En 1990 sort Total Recall. Nous sommes en 2048. Au début du film, nous suivons la vie de Douglas Quaid, ouvrier dans les travaux publics. Depuis quelque temps, il rêve de Mars, ou plutôt, il cauchemarde. Il se voit tout simplement mourir d'asphyxie sur la planète rouge. Et ça commence à l'obséder. Il veut y aller, il se sent comme attiré. Perso, si je commence à rêver que je passe l'arme à gauche, au pied de la tour de Pise par exemple, je vais pas m'y précipiter. Et je resterai même loin de l'Italie. Faute de pouvoir y aller, Douglas va opter pour une autre solution. Il existe une entreprise, Recall, qui implante des souvenirs de voyage. Il décide de sauter le pas avec toutefois une petite fantaisie supplémentaire. Il ira sur Mars en incarnant un espion qui a pour mission de libérer les Martiens. Car sur Mars, tout n'est pas rose. L'administrateur général, Vilos Kohagen, règne sur la colonie du Demain de Fer et exploite les mineurs pour extraire le turbinium. Mais des grèves perturbent le bon fonctionnement des mines et Kohagen fait envoyer la troupe contre les récalcitrants. Des mineurs qui protestent pour leurs conditions de travail et à qui, pour toute réponse, on envoie des soldats. Ça vous rappelle rien? Et si je vous dis Germinal? Mouvement de grève accompagné de revendications indépendantistes. Les Martiens ne veulent plus vivre sous la pression de la Terre, qui clairement se sert de Mars comme les anciennes puissances coloniales se servaient de leurs colonies. Pour en revenir à Douglas, l'implantation du souvenir se passe mal. Il devient fou furieux et commence à tenir des propos délirants. Il est maîtrisé et endormi par les employés de Recall. Il se réveille dans un taxi sans souvenir de sa tentative d'implantation. C'est à partir de ce moment que ça va vraiment dérailler. À peine descendu du taxi, il retrouve un de ses amis qui veut tout simplement le tuer. Il parvient à s'en débarrasser brutalement et se réfugie chez lui. Là, c'est sa femme qui va essayer de le tuer. Là aussi, il en réchappe en utilisant des techniques de combat au corps à corps qui lui sont totalement étrangères. Il agit purement par réflexe, comme s'il avait enfoui dans son subconscient un entraînement en combat. Là-dessus, un homme qui se présente comme un ancien collègue de boulot lui dit qu'il est un espion. Douglas se rend alors sur Mars pour savoir qui il est vraiment. Sur place, il rencontre les indépendantistes qui le reconnaissent et ne gardent visiblement pas un bon souvenir de son passage. Il semblait qu'il était réellement un espion, mais pas pour le bon camp. Et qu'il serait un cheval de Troie bien malgré lui. Toutefois, il parvient à recouvrer une partie de sa mémoire et découvre que Mars abrite les vestiges d'une ancienne civilisation qui prévoyait de rendre la planète rouge habitable sans devoir rester dans des dômes où l'air est payant. Et oui, Kohagen, en plus d'exploiter les Martiens, leur fait payer l'air. Normal. Dans Total Recall, la question présente durant tout le film est: comment distinguer un rêve de la réalité ? L'entreprise Recall promet des souvenirs plus vrais que nature. Oui, mais ce ne sont pas de vrais souvenirs, puisque ce ne sont pas vos souvenirs. Les souvenirs sont des signaux électrochimiques. Et ce n'est pas que ça, c'est aussi des émotions, des sentiments. Comment reproduire une sensation propre à soi-même et forcément différente entre chaque individu? Il y a aussi le côté éthique de la chose. Dans le film, on parle de souvenirs de vacances. Mais la tentation d'implanter des souvenirs plus sensibles ou d'en effacer peut être très forte. Dans le domaine criminel, cette invention serait redoutable. Pour effacer le souvenir d'un témoin, voire même de celui qui a commis le crime. Les perspectives ouvertes par ce procédé font froid dans le dos. Dans Total Recall, l'aventure commence à partir du moment où l'implantation est effectuée. Sauf que cette dernière déconne. Mais en est-on sûr qu'elle déconne? Parce que l'on voit qu'il choisit un forfait espion sur Mars pour ses faux souvenirs. C'est exactement ce qui lui arrive par la suite. Le scénario des faux souvenirs n'est pas précisé et on ne sait pas quand ça doit commencer. Peut-être est-ce volontairement vague pour ne pas se faire spoiler le récit. Ce que l'on voit à l'écran, c'est le récit avec le principe du quatrième mur, ou alors le récit que le héros se fait dans sa tête, malgré lui. Cette dernière technique a déjà été utilisée dans divers films, que je ne vous citerai pas ici pour ne pas divulguer. Petit aparté, le quatrième mur est un concept issu du théâtre qui désigne un mur imaginaire entre la scène et les spectateurs. Ceux-ci sont comme des voyeurs assistant à une scène qui ne leur est pas destinée et dans laquelle ils ne peuvent intervenir. À la fin du film, la question se pose et chacun se la posera et décidera si c'est un rêve ou la réalité. Pour les deux films suivants, Paul Verhoeven s'éloigne de la SF. Il réalise le sulfureux Basic Instinct en 92 et Showgirl en 95, qui sera laminé par la critique. Comme le film suivant, mais pas pour les mêmes raisons. Après Robocop, le duo producteur-scénariste John Davison et Ed Neumayer veulent refaire un film de science-fiction. Il sera basé sur le livre Étoile garde à vous de Robert A. Heinlein. Le scénario est envoyé à Paul, qui le trouvant très intéressant, rejoint l'aventure. Starship Troopers sort en 1997. L'histoire, nous sommes dans le futur, la date n'est pas précisée. Au vu des développements dans les transports et les technologies, on peut penser être assez loin dans le futur, mais le contexte général est très proche de ce que l'on connaît aujourd'hui. Pour faire simple, on est dans le futur, mais pas trop. La Terre est dirigée par une fédération, un gouvernement mondial militaire. On ne sait pas pourquoi on en est là dans le film, mais dans le livre, les militaires ont pris le pouvoir après l'effondrement des nations. Dans cette société, il y a deux catégories de personnes, les citoyens et les civils. Les citoyens, ils ont fait leur service fédéral au sein de l'armée et disposent de droits. Ils peuvent entre autres voter, avoir un permis de procréation plus rapidement et ils participent activement à la vie de la société. Ensuite, les civils. Ils n'ont pas les droits octroyés aux citoyens, ils sont considérés comme des citoyens de seconde zone. Ils peuvent participer à la vie de la communauté, mais ils n'y ont aucun pouvoir décisionnaire. Dans ce collectif, les droits de voter ou d'avoir un enfant ne sont pas accordés naturellement. Il faut les mériter. Les civils ne sont pas pour autant exclus de la société, certains ont même bien réussi et ils ont un train de vie aisé. C'est là que le fonctionnement de cette société pêche. Les civils riches ne sont pas obligés de faire leur service pour acquérir un statut qui leur permettrait de gravir l'échelle sociale. Toujours est-il que la Fédération a décidé de coloniser la galaxie et que nous ne sommes pas seuls. Les arachnides, à l'autre bout de la galaxie, veulent eux aussi coloniser des planètes. Et bien évidemment, tout ce monde se retrouve sur les mêmes cailloux. Comme s'il n'y avait pas assez de planètes à disposition. L'affrontement est inéluctable, et les humains sont un peu à la peine. C'est là que l'on va faire connaissance avec nos héros. Ce ne sont pour le moment que de simples lycéens en fin d'études dans un établissement de Buenos Aires. Il y a Rico, le personnage principal, beau gosse, sportif, mais pas vraiment porté vers les études. Ce qu'il préfère étudier, c'est sa petite amie. Elle s'appelle Carmen, et elle, c'est une intello, douée en maths. Il faut bien ça pour devenir astropilote. Il y a aussi Carl, fort en thème et un peu télépathe. Arrive enfin Didzi, camarade de classe des trois premiers, une sorte d'alter ego féminin de Rico. Tout ce petit monde décide de faire le service fédéral avec des affectations plus ou moins chanceuses. Carmen rejoint l'académie de pilotage, pour Carl ce sera les services de renseignement et pour Rico, l'infanterie.
La viande fraîche pour le broyeur, hein ?
Le message est de ton depuis plus clair. Si tu veux avoir un bon boulot, travaille à l'école. Dorénavant, on va suivre surtout le parcours de Carmen et Rico. À elle, le pilotage des gigantesques vaisseaux. Lui, ce sera une formation digne de Full Metal Jacket. Par hasard ou pas, il sera rejoint par Didzi, qui elle non plus n'a pas bien dû étudier au lycée. Survient alors l'élément qui va déclencher les hostilités. Buenos Aires est détruite par une météorite lancée par les arachnides. Vont se succéder alors différentes opérations, avec plus ou moins de succès, mais qui verront la victoire temporaire des terriens, mais pas la fin de la guerre pour autant. Ce film, dans le plus pur style Verhoeven, cru, d'une violence démonstrative, est une œuvre de référence dans le cinéma de SF. Une nouveauté toutefois, l'utilisation importante d'effets spéciaux numériques. Robocop, plus vieux de 10 ans certes, mais aussi Total Recall, faisait la part belle aux effets réels. Starship Troopers, qui affiche quand même 24 ans au moment où j'écris ces lignes, a très bien vieilli dans ce domaine. Mais le film s'est fait démonter aux États-Unis. Les critiques semblent être passées totalement à côté du traitement satirique du réalisateur. Ils accusent Verhoeven d'être un néo-nazi, d'avoir fait un film à la gloire du fascisme. Ce dernier s'en défendra en arguant qu'il a lui-même été victime de l'occupant allemand durant la Seconde Guerre mondiale. Et en effet, Paul a réalisé un film ironique sur une dictature militaire. Tout est fait pour que l'on saisisse le second degré permanent. Déjà le casting. Les personnages principaux sont joués par des acteurs ayant tourné dans des sitcoms ou des séries à l'eau de rose. Leur physique parfait sert à dénoncer l'eugénisme prôné par le Troisième Reich. Les uniformes des militaires vont forcément vous faire penser à ceux des soldats allemands de la Seconde Guerre. Du simple Troufion au général, tout respire un désagréable sentiment de déjà-vu. La mise en scène de la propagande de la Fédération a la même approche. Paul dira s'être inspiré des films de Leni Riefenstahl, réalisatrice attitrée du Troisième Reich. Pour quiconque a déjà vu un documentaire sur la propagande nazie, il ressentira le même malaise face à la mise en scène des réseaux d'information sur le culte de la Fédération pour une société parfaite, pure. C'est cette ironie qui aura été mal comprise et qui plombera la carrière de ce film. Et peut-être également la critique en creux de l'impérialisme américain. C'est probablement la nuance, peu coutumière du réalisateur, qui n'a pas permis de saisir le propos sarcastique. Starship Troopers sera un peu son point culminant dans le domaine de l'SF. En 2000, il réalise Holoman. C'est l'histoire d'un scientifique un poil mégalo qui cherche le moyen de rendre les personnes invisibles. Il y arrivera, mais en jouant l'apprenti sorcier et en testant sa formule sur lui-même. Et devinez ce qui se passe quand un savant prêt à tout devient visible. Il en abuse, bien évidemment. Mais posez-vous honnêtement la question. Que feriez-vous si vous étiez invisible ? Il faut être hypocrite ou d'une sagesse légendaire pour ne pas penser à tout ce qu'il vous serait possible de faire dans ce cas. Holoman est un film correct, sans plus. Même si on y retrouve les éléments chers au réalisateur, la violence crue, l'approche libérée du sexe et de la nudité. Ce n'est pas un grand film par rapport aux précédents qui ont placé la barre très haut. À noter, des effets spéciaux d'une grande qualité, ce qui sauve un peu le film. Film qui sera le dernier de Verhoeven aux États-Unis. Il retourne en Europe et il réalise plusieurs films entre les Pays-Bas et la France. Réalisateur marqué par la guerre lors de son enfance, Paul Verhoeven aura à cœur de réaliser des œuvres crues, dérangeantes. Mais ce n'est pas par sadisme pur ou par manque d'imagination, là où certains seraient tentés de faire du sensationnel pour pallier à un manque de fond. Il le fait par provocation. Il veut montrer la cruelle brutalité d'un concept, sans faire dans la dentelle. Il n'est pas là pour faire plaisir, d'une certaine façon. Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde, disait Camus. Et les rajouter même, ne pas les nommer, c'est nier notre humanité. Pour paraphraser, on pourrait dire, mal filmer les choses, c'est ajouter du malheur au monde. Ne pas les montrer, c'est nier notre humanité. Le corps humain est fait de chair et de sang. Il est fragile. Et ne pas le montrer, c'est refuser notre statut précaire et à durée déterminée. Notre humanité, en sorte. Et ça, il a bien su le faire. De manière certes brutale, mais honnête. Même s'il n'était pas à la base réalisateur de SF, Paul Verhoeven a su y poser sa patte et en peu de films, nous mettre devant ce que nous pourrions devenir si nous n'étions pas vigilants. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour un prochain numéro de « Vous reprendrez bien un peu de science-fiction ».